Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, bonjour. Au Niger, le gouvernement a annoncé mercredi soir qu'au moins 15 de ses soldats ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque terroriste mardi après-midi dans la région de Tillaberi, proche du Mali, portant à 31 le nombre de militaires morts en 4 jours dans des attaques. Une trentaine d'étudiants kidnappés en mars par un commando lourdement armé dans le nord du Nigeria ont été libérés, s'est félicité mercredi le président nigérian Muhammadu Buhari, critiqué pour son incapacité à enrayer les attaques de bandes criminelles pratiquant les enlèvements de masse. Le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, en visite à Abidjan, doit y rencontrer l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, qui sera jugé au Burkina pour son rôle dans l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara. Rosine Munezero nous donnera les détails. La Cour pénale internationale doit prononcer jeudi la peine infligée à Dominique Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, jugé coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dominique Ongwen, âgé maintenant de 45 ans, encourt la prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable en février de 61 chefs d'accusation, dont celui de grossesse forcée qui n'avait jusqu'à présent jamais été prononcé par la CPI basée à La Haye. Il a aussi notamment a été jugé coupable de meurtre, viol, esclavage sexuel et conscription d'enfants soldats. L'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a suspendu son secrétaire général Ace Magashule, accusé de corruption, un succès pour le président Cyril Ramaphosa, qui jouait gros sur ce dossier au sein d'un parti très divisé. Michel Joseph fera le point. 38 migrants de diverses nationalités africaines, dont 6 femmes, qui tentaient de rallier l'Europe, ont été secourus mercredi par la marine tunisienne, alors que leur embarcation était sur le point de couler au large de l'île de Kerkena, selon le ministère de la Défense. Près de 300 migrants ont péri depuis le 1er janvier en Méditerranée et 1200 en 2020, dont la grande majorité sur cette route centrale, selon l'ONU. L'Égypte a annoncé un renforcement de ses mesures de lutte contre le coronavirus à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd al-Fitr, qui va marquer la semaine prochaine la fin du mois de jeûne du Ramadan. Elle a décidé de fermer ses cafés, centres commerciaux et restaurants à 21h à partir de jeudi et jusqu'au 21 mai. Les États-Unis ont annoncé mercredi qu'ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, notamment réclamés par l'Inde et l'Afrique du Sud. Il s'agit d'une prise de position exceptionnelle à l'heure où les pays pauvres manquent cruellement des précieuses doses, seule arme contre la pandémie qui poursuit ses ravages, notamment en Inde. Décision historique pour le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, décision décevante pour la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique. L'Inde a pour sa part enregistré un record de près de 4000 décès et 412 000 nouvelles contaminations en 24 heures, selon des données officielles publiées ce jeudi. Réunis pour la première fois en personne depuis plus de 2 ans, les grandes puissances du G7 ont adopté mercredi un ton ferme à l'égard de la Russie, de la Chine et de l'Iran, sans annoncer l'aide supplémentaire au partage des vaccins demandés par l'OMS. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé mercredi soir en Ukraine pour apporter son soutien face à Moscou après des semaines de tensions, mais aussi pour exiger des efforts dans la lutte anticorruption. L'élu centriste Yair Lapid a été chargé mercredi par le président israélien de former un gouvernement après l'échec du premier ministre sortant Benjamin Netanyahou dans ses tentatives de réunir une majorité autour de lui au Parlement. Un prototype de la fusée géante Starship développée par SpaceX, dont les 4 précédents vols d'essai s'étaient soldés par d'impressionnantes explosions, a réussi mercredi son atterrissage. La suite de nos informations, le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, en visite à Abidjan, doit rencontrer l'ex-président Blaise Compaoré, qui sera jugé au Burkina pour son rôle dans l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara. Le point avec Rosine Mounézéro.
Une telle rencontre serait la première entre un ministre du gouvernement du président Roch-Marc Kaboré et l'ancien chef de l'État depuis qu'il a été renversé suite à une révolte populaire en 2014. Zéphirin Diabré a remis un message du président Kaboré à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne qui ne précise pas si le cas de Blaise Compaoré a été discuté lors de la rencontre. L'ancien président doit être jugé au Burkina pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987. Le dossier a été envoyé le 13 avril devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges de complicité d'assassinat et d'attentat à la sûreté de l'État contre 14 personnes, dont M. Compaoré. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, il vit en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne.
En Afrique du Sud, l'ANC, parti au pouvoir, a suspendu son secrétaire général Ace Magashule, accusé de corruption. C'est un succès pour le président Cyril Ramaphosa, qui joue gros au sein d'un parti très divisé, Michel Joseph.
L'ANC, empêtré depuis longtemps dans des scandales de corruption, cherche à redorer son image face à des électeurs écœurés. Cyril Ramaphosa a semblé un moment isolé dans ce bras de fer avec Elias Magashule, surnommé Ace, secrétaire général de l'ANC depuis 2017 et soutenu par des partisans de l'ancien président Jacob Zuma. L'ANC avait donné à Ace 30 jours pour partir de lui-même. L'ex-premier ministre du Free State dans le centre du pays est accusé par une biographie explosive intitulée Gangster State. Il a laissé passer la date butoir la semaine dernière, forçant le parti à prendre ses responsabilités. Sa suspension, qui a pris effet lundi, lui a été signifiée par une lettre signée de son adjoint, Jesse Duarte, qui précise que cette décision ne le privait pas de son salaire. Actuellement en liberté sous caution, Ace sera donc jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés. En 2014, près de 10 millions d'euros pour désamianter des logements sociaux ont disparu des caisses de l'État et les travaux n'ont jamais eu lieu.
Le conseil de surveillance de Facebook donne raison aux géants des réseaux sociaux sur sa décision d'interdire à Donald Trump de poster des messages sur ses plateformes. L'ancien président américain parle de honte absolue. Le point avec Abdourahmane Dia.
On a retiré la liberté d'expression au président des États-Unis parce que des fous de la gauche radicale ont peur de la vérité, mais la vérité sortira de toute façon plus grande et plus forte que jamais, a indiqué Donald Trump dans un communiqué. D'autres alliés de l'ancien président se sont indignés de la décision du conseil de Facebook. C'est un triste jour pour l'Amérique, c'est un triste jour pour Facebook, a déclaré son ancien chef de cabinet Mark Meadows. Selon le conseil, qui est une sorte de Cour suprême de l'entreprise, l'ancien locataire de la Maison-Blanche a bien créé un environnement où un risque sérieux de violence était possible avec ses commentaires le 6 janvier, jour de l'invasion du Congrès par des partisans de Trump. L'entreprise ne peut pas créer de toutes pièces des règlements dont les utilisateurs n'ont jamais entendu parler, selon Julie Owono, membre du conseil et directrice de l'ONG Internet sans frontières. L'instance décide que Facebook doit donc prendre une décision plus appropriée d'ici début novembre.
La Minute Éco, John Linden.
Le montant moyen des soumissions sur le guichet hebdomadaire des adjudications de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a enregistré une baisse de 6,7% en mars 2021, selon les données établies par cet institut d'émission basé à Dakar. Ces soumissions se sont établies à un peu plus de 3 300 milliards de francs CFA, contre 3 500 milliards en février 2021. En Tunisie, l'opérateur des télécommunications en Tunisie Télécom vient d'annoncer la démission de son PDG Samir Sayed, qui va assurer les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur. L'opérateur national tunisien a indiqué avoir réalisé de belles performances au cours de l'année. Créé en 1995, Tunisie Télécom est détenue à 65% par l'État et les 35% par Dubai Holding. Le Trésor national sud-africain annonce qu'il poursuivra ses projets d'introduction d'une nouvelle banque d'État pour aider les populations les plus vulnérables. S'exprimant devant l'Assemblée nationale, le directeur général du Trésor, Tondo Magajane, a indiqué que la nouvelle banque fait partie des réformes annoncées par le président Cyril Ramaphosa dans son plan de relance post-Covid.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, Ivo Gross, vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, a été nommé sélectionneur de l'Afrique du Sud. Le Belge de 69 ans n'a pas été prolongé sur le banc du Cameroun malgré son sacre en 2017. Après l'échec en qualification pour le Mondial 2018, il remplace Molefi Nseki qui a été licencié après avoir échoué à qualifier les Bafana Bafana pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera au Cameroun en janvier et février prochain. Bross était loin des terrains depuis son départ du club de première division belge du KV Oostende en 2019, où il était directeur sportif. L'Afrique du Sud doit terminer en tête de son groupe, comprenant le Ghana, le Zimbabwe et l'Éthiopie, pour se qualifier sur le terrain pour sa première phase finale de Coupe d'Afrique du Monde depuis son mondial à domicile en 2010. En Europe, Chelsea du Marocain Hakim Ziyech et du portier sénégalais Edouard Mendy, énorme, a pris le meilleur 2-0 sur le Real Madrid pour rejoindre Manchester City lors d'une finale de la Ligue des Champions 100% anglaise. Le 29 mai, à Istanbul, il s'agira de la 8e finale de Ligue des Champions entre clubs d'un même pays et la 3e pour des équipes anglaises après la victoire du Manchester United au tir au but sur Chelsea en 2008 et celle de Liverpool sur Tottenham en 2019. La Ligue Europa, elle, désignera ses finalistes ce soir. Unai Emery, grand spécialiste de la compétition, espère tenir tête à son ancien club Arsenal pour guider Villarreal jusqu'à la finale. Le sous-marin jaune sera à Londres avec le petit avantage possible, une victoire étriquée de 2-1 à domicile. De son côté, Manchester United se déplace à Rome avec le ticket pour la finale presque acquis. Les Red Devils débutent au Stadio Olimpico avec 4 buts d'avance, fort de la déculottée 6-2 infligée aux Romains à l'aller à Old Trafford. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coué, dit comprendre les préoccupations des Japonais sur la tenue des Jeux Olympiques, mais a souligné l'importance des mesures sanitaires prises pour faire face à la pandémie de coronavirus et assurer leur tenue. Selon les sondages, une majorité de Japonais souhaitent que les Jeux qui doivent s'ouvrir le 23 juillet soient reportés ou annulés. Un semi-marathon test a été organisé hier, alors que les régions de Tokyo et d'Osaka, parmi d'autres, sont toujours placés sous un régime d'urgence sanitaire en raison de la pandémie et que la campagne de vaccination progresse lentement.
Merci, Yacouba.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idriss Tassé-Doudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, réaction au sein du quartier général du parti UNDR après la décision de Salé Kebzabo, opposant historique au régime du défunt président Idriss Déby Itno, de reconnaître les autorités de la transition et de faire participer deux de ses camarades de parti au gouvernement de transition. L'opposant Mahamat Ahmad Alabo, nommé ministre de la Justice, lui assure qu'il va redresser l'appareil judiciaire pour lui donner ses lettres de noblesse. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Travailler pour la justice est ma devise. Lutter contre l'injustice est mon sacerdoce. Respecter le droit de l'homme est mon devoir.
L'opposant Ahmad Mahamat Alabo, nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits de l'homme, poste qu'il a occupé sous le régime du président défunt il y a 20 ans avant de passer à l'opposition. Il prend l'engagement de ne pas s'immiscer dans le travail des juges.
Je ne donnerai aucune instruction en faveur d'un tel justiciable au détriment d'un autre. En retour, je serai intraitable avec les magistrats. Je voudrais demander aux populations, aux groupes d'influence, aux faiseurs de décisions, de s'abstenir, de venir à la chancellerie solliciter un quelconque faveur judiciaire.
Ahmad Mahamat Alabo s'engage également à faire respecter le droit de manifester à tout citoyen qui, selon lui, est un droit constitutionnel. Car, dit-il, le titre 2 de la Constitution de 1996 qui consacre la liberté des droits fondamentaux et des devoirs et celles qui ont subi des modifications n'a pratiquement pas changé.
Comment comprendre que des Tchadiens et des Tchadiennes, marchant en chantant l'hymne national, soient gazés, interpellés, condamnés et quelquefois, et hélas, tués à coups de balles réelles? Comment comprendre que les enceintes sacrées des écoles soient allègrement violées pour y balancer des gaz lacrymogènes contre des élèves? Comment comprendre que des journalistes soient traqués et obligés de rentrer en clandestinité pour avoir tout simplement fait leur travail en publiant un article ou en faisant une expression contraire?
Pour mettre doute à Tolgar, président de la coordination des actions pour la gouvernance démocratique, la justice et l'égalité sociale, le ministre de la Justice, qui n'est pas noviste du département, a touché un vrai problème qui freine la distribution de la justice en tant que l'équilibre social et de la paix au Tchad.
Dans la journée d'aujourd'hui même, nous l'avons saisi par une correspondance pour dire que nous sommes disposés à mettre à sa disposition toutes les preuves possibles du labyrinthe judiciaire. Et nous lui tirons aussi chapeau pour ce qui est du droit de manifester, du droit des journalistes de faire leur travail.
La justice renaîtra de nouveau.
En revanche, les membres du bureau exécutif de l'UNDR de l'opposant Saleh Kebzabo murmure au sujet de sa décision de reconnaître les autorités de transition et entrer dans le gouvernement. Le professeur Avaksuma Jonah est membre du bureau exécutif de l'UNDR.
Plusieurs jeunes ont donc été froidement assassinés et que d'autres sont encore sur les lits d'hôpital. C'est dans ce climat de douleur que l'UNDR décide d'accompagner le Premier ministre, de reconnaître le CMT et de faire son entrée au gouvernement, qui n'est qu'un consensus paralysant. Les camarades ne doivent pas abandonner les autres jeunes seuls face aux fusils d'assaut des assassins. Je désapprouve le choix fait par mon parti, l'UNDR, d'entrer dans le gouvernement. Je soutiens l'opération Wakitama.
Le bureau exécutif de la dite formation politique s'est réuni d'urgence ce mercredi et aurait demandé des excuses publiques du professeur Avaksuma Jonan pour sa sortie médiatique. André Godmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Au menu de Washington Forum cette semaine, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Avec plus de 120 groupes armés actifs, dont les ADF, la zone est plongée dans une instabilité chronique qui a poussé le président Tshisekedi à annoncer l'état de siège. Une annonce qui a suscité espoir et interrogation alors que les manifestations se multiplient ces derniers temps contre ce que la société civile appelle l'inaction de la MONUSCO face aux exactions des groupes armés contre les civils. Comment résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC? Réponse avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a remplacé les autorités civiles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par des militaires, une mesure prise dans le cadre de l'état de siège qui entre en vigueur ce jeudi. Marius Mohunga s'est entretenu avec Jean Bamanissa, le gouverneur remplacé de la province de l'Ituri.
Nous en avions besoin parce que il fallait un électrochoc, il fallait une prise en main Il faut que le peuple entier, la communauté congolaise, la nation congolaise prenne cette affaire à bras-le-corps pour nous trouver des solutions, parce que non seulement nous avions cela sous notre charge en tant que gouvernement provincial, et nous n'avons pas, nous, les capacités de gestion de cette armée, même si le gouverneur dirige le comité de sécurité, il coordonne, mais tout ce qui est armé dépend de la stratégie de l'armée. Nous avons plutôt nous à faire un travail qui est celui du développement, puisque je vous dis, c'est des conflits qui sont à caractère mystico-religieux et ancrés dans les communautés. Et nous avons un gros travail pour que nos communautés puissent s'entendre.
Est-ce qu'on peut dire que ce qui arrive aujourd'hui est une sorte d'impuissance des autorités civiles de votre province ?
Pas du tout. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est toute l'armée qui se mobilise autour de ce mode de gestion de l'état de siège, dire que la situation était difficile et qu'il faille l'arrêter. Le chef de l'État, malgré tout ce que nous avons fait, a pensé que il était temps que l'armée prenne les choses en main. Je pense qu'à un moment, il faut faire arrêter la récréation par les forces armées.
Qu'est-ce que vous pensez que les autorités militaires peuvent faire que vous n'avez pas pu faire ?
Écoutez, déjà, les stratégies militaires, c'est vrai qu'elles existaient déjà, mais aujourd'hui, en responsabilisant les forces armées par cet état de siège, il y a une responsabilisation directe de notre armée qui doit nous trouver des solutions, elle et la police. Nous sommes actuellement un gouvernement veilleuse. C'est vrai qu'il faut que cela se passe très vite, parce que toutes les autres questions politico-administratives, humanitaires, sociales, d'éducation, surtout cette grosse question humanitaire où il y a 1 600 000 personnes qui ont été déplacées, il y a encore 250 000 personnes qui se trouvent dans des camps des déplacés, doivent être résolues. Et la pression est là aujourd'hui sur les forces armées.
Jean Bamanissa, le gouverneur remplacé de la province de l'Ituri.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Le Burkina Faso est désormais l'épicentre des déplacements et des crises humanitaires au centre du Sahel. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONG Refugees International intitulé « Atrocités et déplacements au Burkina Faso ». L'organisation humanitaire estime que les forces de sécurité burkinabées sont le plus souvent responsables de ces déplacements de population qui ont mis 3,5 millions de personnes dans un besoin d'aide humanitaire et fait 1,2 million de déplacés burkinabés. Yacouba Ouédraogo a joint ici à Washington Alexandra Lamarche, chargé de plaidoyer à l'ONG Refugees International.
Au début, ce qu'on a vu, on observait que la plupart des gens se déplaçaient parce qu'ils avaient peur des groupes armés, les groupes djihadistes qui rentraient. Au cours des années récentes, on a vu vraiment un changement dans la raison des déplacements. On a vu que la violence vers les civils des forces burkinabées ainsi que les groupes, les volontaires, était vraiment la cause des déplacements. Les gens avaient très peur des exactions. Ils avaient peur que les forces les perçoivent comme supporter les groupes djihadistes ou l'inverse. Donc, on a vu que vraiment l'élément de peur venait des forces et non des groupes djihadistes. C'est pas pour dire que les groupes djihadistes qui sont rentrés au pays et qui sont, il y en a plusieurs aussi qui viennent du Burkina, ont fait peur aux gens et ont été la cause de déplacement aussi, mais on a vu un vrai changement en fin 2018.
Ces personnes qui sont déplacées, qu'est-ce qui est fait pour subvenir à leurs besoins, puisque vous parlez d'aide humanitaire?
Ça dépend vraiment des régions. Donc, malheureusement, le gouvernement a fait en sorte que les groupes humanitaires ne sont pas en fonction de pouvoir négocier l'accès aux populations. Donc, si les gens en besoin se trouvent dans une région qui est contrôlée ou où il y a une présence des groupes armés, les groupes humanitaires ne peuvent pas répondre à leurs besoins puisqu'ils ne peuvent pas s'y rendre. Dans d'autres endroits, les groupes humanitaires internationaux et locaux aussi, font beaucoup pour subvenir leurs besoins. Donc, ça peut être en termes d'abri, en termes de nourriture, en termes d'eau et d'assainissement et en termes de santé. Et on trouve que les gens qui sont dans les camps sont un peu plus accessibles que les gens qui sont en communauté haute. C'est un peu difficile à les...
Qu'est-ce qui empêche, par exemple, les ONG humanitaires d'avoir accès à ces déplacés qui ne sont pas dans les camps?
Et il y a deux lois qui compliquent un peu l'espace humanitaire. Bon, en 2019, le gouvernement a modifié le code pénal du pays afin d'interdire la démoralisation des forces de sécurité, qui fait en sorte que les ONG ainsi que les médias ne peuvent pas vraiment diffuser des informations négatives ou critiques sur les forces burkinabées. Ça complique énormément le travail des journalistes ainsi que des ONG qui doivent vraiment pouvoir expliquer la situation qui se produit au Burkinabé. Je pense qu'en 2018, le gouvernement burkinabé a mis en place une loi qui interdit toute communication avec les groupes non étatiques. Donc, ça fait en sorte que la CIA est toujours négociée avec les groupes armés. Donc, si un ONG veut pouvoir accéder à une population en besoin, il faut avoir la permission du groupe armé qui contrôle la région. Malheureusement, cette communication et cette négociation est maintenant interdite. Au début, on voyait que c'était un acteur de bonne foi, mais de plus en plus, le gouvernement complique l'accès humanitaire, complique vraiment le partage d'informations. C'est un peu une relation tendue et on aimerait que le gouvernement soit plus allié avec les acteurs humanitaires pour pouvoir leur laisser faire leur travail pour subvenir aux besoins de la population burkinabé.
Alexandra Lamarche, chargée de plaidoyer de l'ONG Refugees International, jointe ici à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Mali, suite aux nombreuses manifestations contre les coupures de courant, la direction de la Société Énergie du Mali a organisé hier une journée porte ouverte. Cela pour permettre à ses consommateurs et aux membres de la société civile de connaître ses réalités en visitant quelques-unes de ses centrales à Bamako. Reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko.
Au cœur de nombreuses plaintes et protestations à raison des délestages récurrents ces derniers mois, la société EDM, Énergie du Mali, a ouvert hier ses installations de Balingué, Sirakoro et de Sotuba aux associations de consommateurs et à la société civile. Une façon pour elle de partager ses difficultés et surtout rassurer sur les mesures prises. Mahamadou Nguindo, directeur adjoint Énergie du Mali.
On a fait des travaux provisoires pour pouvoir effectivement reprendre la totalité de la population alimentée aujourd'hui.
Le collectif Stop au délestage, qui manifeste régulièrement devant les bureaux de la société, a pris part à la cérémonie. Les membres du collectif disent avoir apprécié l'initiative, mais cela ne va pas les empêcher d'observer les sittings hebdomadaires du jeudi jusqu'à ce que la question de la distribution de l'électricité soit une réalité après les phases de promesses. Daouda Kanté, membre du collectif Stop délestage.
Moi, je suis sorti le jeudi passé pour lutter contre l'EDM. Ce jeudi-là, je vais sortir encore pour lutter contre l'EDM. L'industrialisation, l'emploi, et la modernisation de l'agriculture, tout ça quoi. Tout ça c'est lié au manque d'électricité en fait. C'est ça mon combat.
Pour sa part, le directeur général de l'énergie du Mali, Oumarou Diarra, pointe la vétusté du matériel, le déficit d'approvisionnement en hydrocarbures et la défaillance de la fourniture d'électricité à partir de la Côte d'Ivoire comme étant la cause des coupures de courant, notamment dans la capitale Bamako.
Les interconnexions sont absolument nécessaires. C'est une politique sous-régionale, validée donc par nos chefs d'État depuis longtemps, et c'est intéressant pour les pays. Mais ça devrait servir à des échanges d'énergie que à être des sources principales d'approvisionnement pour nos pays. Et donc nous ferons en sorte que cela soit en termes d'échange d'énergie et non en source principale pour le Mali d'ici 8 mois.
Selon ces officiels, une table ronde sera organisée avec des partenaires dans les jours à venir pour trouver des fonds nécessaires aux investissements dans le secteur. Un fonds estimé à plus de 2000 milliards par le ministre de l'Énergie, Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.